Bonsoir, Fatia Momeni de la tribune de ce soir, à savoir, situation sécuritaire à Ouvira dans le Sud-Kivu, une dizaine de morts à la suite d'un échange de tirs entre SARDC et des assaillants, parmi lesquels des éléments Maïmaï et des éléments FNL burundais, qui venaient de vider la prison centrale d'Ouvira de ses détenus. Cet échange de tirs a eu lieu hier jeudi matin dans la cité d'Ouvira. Dans ce débat, nous allons voir l'évolution de la situation aujourd'hui. Deuxième thème de la tribune de ce soir, Assemblée nationale, adoption mardi 7 avril dernier à la Chambre basse du Parlement, du calendrier de l'élection du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et de la mise en place d'un groupe technique mixte de travail. Et enfin, notre dernier terme de ce soir, la décision du gouvernement de retenir à la source 30% sur les salaires de tout personnel politique, communément appelé impôt sur le revenu professionnel. Trois confrères sont avec moi dans ce studio pour en parler. Il s'agit d'Herbert Tibanda Kadedian, journaliste et directeur de programme à la chaîne Kasaï Horizon Radio-Télévision, KHRT, station de Mbujima, une chaîne de télévision et radio privée émettant dans les deux Kasaï. Laurel Konkole, journaliste indépendant, et Ambroise Mamba, journaliste présentateur d'une émission politique sur Congo Web Télévision, une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa. Avant d'entrer dans le vif du débat de ce soir, je vous propose de suivre la revue de presse avec Alain Héron pour voir comment les journaux kinois ont abordé les trois thèmes retenus pour ce soir.
Bonsoir. Premier thème de ce journal des journaux, la situation sécuritaire à Ouvira dans le Sud Kivu. L'Observateur annonce, après le Nord Kivu, c'est autour du Sud Kivu. Les FRDC s'affrontent avec les Maïmaï à Ouvira. D'après ce journal, les FRDC ont repoussé jeudi matin une attaque menée par des miliciens Maïmaï et des rebelles burundais contre la cité d'Ouvira. La référence nous écrit, je cite, « Le Kivu, de nouveau dans le traumatisme de la guerre. Ce quotidien souligne que des personnes non identifiées sont venues des hauts plateaux libérer leur congénères emprisonnés dans Ouvira. Le deuxième sujet de la semaine, c'est l'adoption à la Chambre basse du Parlement du calendrier de l'élection du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Le SAR, quant à lui, note la mouture de l'AMP est là. Et le confrère d'ajouter que le facteur géopolitique aurait été pris en compte dans la configuration du prochain bureau. Toujours à ce sujet, le journal L'Avenir écrit « Lutte acharnée et combine politicienne pour les postes ». Selon les moutures qui circulent, le PPRD garde la présidence de l'Assemblée nationale en dépit du fait que la lutte serait acharnée entre provinces. Le dernier sujet de la semaine, c'est la décision du gouvernement de retenir à la source 30% de tout le personnel politique communément appelé impôt sur le revenu professionnel. Ouro affiche à sa une, le personnel congolais mis à contribution. Pour sa part, Africa News s'exclame, les députés réfractaires à l'impôt. Les députés boudent la retenue de 30% sur leurs émoluments, note pour sa part la référence plus. Et le palmarès d'ajouter, pour une bonne gestion de ces fonds, le gouvernement doit s'appliquer à l'éradication de la corruption au sommet.
Merci Alain Roux pour cette revue des presse. Herbert Tibanda, commençons par vous. Est-ce que les trois thèmes que nous avons retenus pour la tribune de ce soir avaient aussi fait objet d'actualité en Mbujimayi? Allô Herbert? Voilà, Herbert n'est pas en ligne. Ambroise Mamba, une petite analyse par rapport à cette revue de presse.
Oui, la revue est bonne, d'autant plus qu'elle a touché à tous les trois faits d'actualité, la situation du Sud Kivu par rapport à la sécurité, et également la situation de l'Assemblée nationale, mais également ces problèmes qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté des députés, l'impôt sur le revenu professionnel. Elle est bonne, la revue de presse.
Laurel Kankole, hormis ces trois thèmes que nous avons retenus pour la tribune de ce soir, est-ce qu'il y a un autre sujet qui a fait l'actu la semaine et que la presse n'a peut-être pas en parlé?
Oui, tout à fait. Kelly, c'est notamment le projet d'amnistie a décrété au profit de tous ceux qui ont été impliqués dans la crise, dans les événements du Nord Kivu, aujourd'hui en débat, ce qu'on appelle l'amnistie des circonstances. Moi, je me dis, ça valait quand même la peine qu'on y revienne, d'autant plus que ça ne met pas tout le monde d'accord, parce que cette amnistie ne concerne pas tout le monde. On dit des crimes des gens qui ont commis tels actes et qui doivent être amnistiés, tels autres, pas. Je me dis, ça valait quand même la peine qu'on y revienne. Hélas, je me dis peut-être que la presse, les confrères ont trouvé que l'intérêt était ailleurs, ou que le moment venu, ils pourront y revenir.
Et par rapport à nos trois thèmes de ce soir, l'analyse a été bonne?
Oui, l'analyse a été tout à fait cohérente. Moi, je me dis, c'est équilibré, c'est bon. Tout à voir maintenant comment les amis, conformément à leur ligne éditoriale, ont abordé le problème. En soi, ça va.
Merci Laurel. Premier terme de la tribune de ce soir, situation sécuritaire à Ouvira dans le sud Kivu. Une dizaine de morts à la suite d'un échange de tirs entre FARDC et des assaillants, parmi lesquels des éléments Mai Mai et des éléments FNL burundais qui venaient de vider la prison centrale d'Ouvira de ses détenus. Cet échange de tirs a eu lieu hier jeudi matin dans la cité d'Ouvira. Notez qu'au sujet de cet échange de tirs, le lieutenant-colonel Augustin Tuano, commandant ville du 13e bataillon intégré, assume que la situation sécuritaire reste sous contrôle des FARDC dans toute la cité d'Ouvira. Selon le commandant, les éléments des forces armées de la RDC sont dans une position offensive contre toute attaque des forces négatives. Il ajoute que l'assaut de ce jeudi contre la cité d'Ouvira serait l'œuvre d'un réfractaire FARDC appelé communément Fujo. Cet ex-officier de la 109e brigade infanterie, mais content de n'avoir pas reçu une promotion en grade au sein du programme Amani pour le compte du groupe Mai Mai Zabuloni, aurait fabriqué une milice pour prendre le contrôle d'Ouvira. Le bilan de ces accrochages, pour rappel, s'élève selon la même source à 12 morts, dont 8 côté assaillants, 2 FARDC, un policier, une femme, ainsi que 2 assaillants capturés. Notez aussi que le commandant second de la 10e région militaire est sous place. À propos toujours de cette situation à Ouvira, le gouverneur du Sud Kivu a annoncé hier jeudi que les autorités du pays ont pris quelques mesures pour que telle situation ne se reproduise plus. Louis Léonce Moudéroy était hier jeudi soir, l'invité de dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. On l'écoute au micro de Jean-Claude Toumakamanga.
Nos autorités ont pris une série de dispositions pour que ce genre d'agissement ne se reproduise plus. La première disposition qui est un programme, c'est le programme d'intégration des groupes armés au sein des FARDC. La deuxième disposition par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les FARDC continuent à faire leur travail normalement. Nous allons continuer des opérations de ratissage. Nous allons essayer de ramasser toutes les armes qui ont circulé depuis plusieurs années dans la région entre les mains des civils. Et bien entendu, nous allons continuer à renforcer les mesures qui tendent à déployer la police sur les lieux et que la police puisse être encadrée, encouragée.
Ambroise Mamba, vous êtes journaliste et présentateur d'une émission politique sur Congo Web Télévision, une chaîne privée émettant à Kinshasa. Est-ce que les mesures prises par les autorités du pays sont suffisantes pour éviter ce genre de situation?
Il n'y a aucune mesure nouvelle, à mon avis. Il n'y a pas de nouvelles mesures, c'est déjà entendu. Lorsqu'on parle de l'intégration des groupes armés au sein des FARDC, les FARDC vont continuer à travailler. Tout ça, à mon avis, il n'y a aucune nouvelle mesure. Moi, je voudrais qu'on prenne d'autres mesures. C'est comme pour dire...
Et quelles, par exemple?
Les mesures, par exemple, par rapport à la réforme de l'armée. Parce que la situation de l'Est, c'est une situation pour qu'elle soit résolue. Il faut qu'on réforme l'armée congolaise. Et la réforme de l'armée congolaise appelle, bien sûr, à des moyens importants. Moi, je voudrais que les autorités du pays se concentrent à la réforme de l'armée, comme ils l'ont fait avec les opérations de traque des FDLR, parce qu'il y avait un coût économique. Vous savez, l'opération qui a été menée conjointement par les Rwandais et les FARDC avait un coût économique. Il y avait de l'argent qu'on avait dépensé. Moi, j'aurais voulu que cette fois-ci, on se concentre aussi à la réforme de l'armée, qu'on mette des moyens en jeu pour qu'effectivement, on puisse avoir une armée dissuasive, tout simplement. Et la sécurité s'est rétablie dans cette partie du pays. Et je pense qu'on aura à se concentrer au problème de développement du pays.
Merci Ambroise. Aurel Kankole, vous êtes journaliste indépendant. À votre avis, comment expliquer l'intérêt des assaillants d'aller libérer des détenus dans une prison centrale?
En tout cas, ça veut dire simplement que ces assaillants ont compris les faiblesses qui existent dans la partie est du pays. Moi, je l'ai dit devant ce même micro, je l'ai dit, nos frontières sont souvent poreuses. Et le bien, c'est quoi dans notre pays? Et qu'on ne prend jamais des dispositions préventives. Ça, on vient toujours après, voilà, tel, on fait ceci, et puis après, on vient, on se révise, on dit, voilà, la situation est redevenue calme, la situation est sous contrôle, de FARDC. Non, ça ne suffit pas. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi c'est toujours l'Est du pays? Et j'ai répondu à ma façon, je me dis, c'est à cause de l'impunité. Hier, c'était les morts qui vous, aujourd'hui, c'est les sud qui vous. Je peux poser la question tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait des auteurs des troubles du nord qui vous? Voilà pourquoi j'ai parlé de la situation, j'ai parlé de l'amnistie tout à l'heure. On veut amnistier qui? Et lorsqu'on doit amnistier ces auteurs-là, qu'est-ce qu'on fera? Quelles dispositions on a prises pour les victimes? Lorsque les auteurs des forfaits de guerre, par exemple, disent, voilà, mais tel a fait ceci, voilà, on n'a rien fait pour contre lui, je peux moi aussi, à mon sens, de ma façon également, poser un tel autre acte, je serai acquitté ou on n'en fera rien. C'est ça le grand problème du pays. Moi, je me dis que tout de suite, la paix à tout prix, oui, mais la paix à quel prix? Il faudrait un processus qui fasse également craindre aux autres, soit à tous les autres auteurs potentiels, qu'ils le fassent peur pour dire non. Si j'ose, voici ce qui peut m'attendre. Mais lorsqu'on reste dans cette situation-là d'impunité, nous retombons toujours à la case du départ. Ça, c'est ma thèse qui pourrait n'engager que moi.
Voilà, Ambroise Mamba n'est pas apparemment d'accord avec vous.
Par rapport à l'impunité, il faut lutter effectivement contre l'impunité. Et voilà pourquoi il y a des ONG qui ont réclamé jusqu'aujourd'hui le transfert des Bosco Ntaganda au niveau de la CPI pour qu'ils soient punis sévèrement par rapport qu'ils répondent de ces actes, justement. Mais moi, je voudrais revenir ici sur la réforme de l'armée, parce que c'est ce qui est très important. On parle des Maïmaï, du FNL, tout ça. Le FNL, c'est justement une milice qui est engagée dans un processus de paix au Burundi. Mais tous ces gens sont en train d'opérer de quelle manière? Parce qu'effectivement, au niveau de l'armée congolaise, il y a des problèmes. Puisque la réforme de l'armée, justement, il fallait qu'on prenne une nouvelle génération, on mette des moyens en jeu, on prend une nouvelle génération, il y a la formation militaire, la formation idéologique, et là, on va changer le moral des militaires. Et on va combattre cette insécurité. Bien sûr, par rapport à l'impunité, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant.
Moi, je me dis peut-être, la réforme de l'armée, c'est vrai, c'est un idéal, mais à moyen terme. Quelle issue à court terme on peut préconiser pour le papa qui a mort d'homme? Parce qu'il y a le sang qui est versé, Ambroise.
Effectivement, c'est une bonne question que vous me posez. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'impunité, punir les auteurs de ces actes, justement, mais ça ne résoudrait pas le problème, à mon avis.
Oui, on voit que finalement, on ne devrait pas déclarer le Grand Kivu comme zone d'intervention militaire permanente à cause de tout ce qui se dit là-bas.
Bien sûr que oui. Pourquoi pas?
Vous partagez le même point de vue, Laurent?
Bien sûr que oui. Oui et non. Moi, je me dis, zone d'intervention militaire permanente, oui, mais pour quelle fin? Pour quelle fin?
Pour sécuriser la population, pour sécuriser les frontières.
Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une armée, comme il a dit. Il faudrait renforcer la sécurité. Il n'y a que ça. Plus, parce que la convivialité entre l'armée, entre les militaires et les civils, c'est une convivialité à risque. Le civil, aux côtés de militaires, à un moment, il peut se sentir sécuritaire, à un autre pas. Moi, je me dis, la situation, elle, c'est simplement de renforcer les mesures de sécurité afin que la population sente que nous sommes effectivement sécurisés. Un militaire côte à côte avec un civil, moi, je me dis, c'est un mariage à risque. Voilà.
En vrai, renforcer les mesures de sécurité, notamment lorsque le gouverneur Louis-Léonce Moudroy, que nous avons suivi tout à l'heure, a parlé de la manière de déployer des policiers dans les lieux. Moi, j'aurais voulu qu'on augmente aussi les effectifs de ces policiers. Et lorsqu'on augmente ces effectifs, il y a moyen de contrôler et de maîtriser les fauteurs de troubles dans cette partie du pays, justement. Parce que Laurel a dit que la réforme de l'armée, c'est, ça prend du temps, justement, que ça prenne du temps, mais qu'on s'y concentre quand même, qu'on se concentre à mettre les moyens en jeu pour qu'effectivement on puisse avoir une armée dissuasive, et ça va résoudre le problème, effectivement. On n'aura plus des groupes armés, ça meurt des troubles dans la partie intérieure.
Oui, merci Ambroise. La réalisation, mais signale que nous avons perdu Herbert Tubanda, mais je crois qu'on l'aura avant la fin de cette émission. Finalement, il y a une autre question que l'on se pose. Certains analystes pensent que Uvira a souvent été une porte d'entrée ou une ouverture aux rébellions récentes. Vous partagez le même point de vue?
Tout à fait. Il suffit de faire la relecture de l'histoire politique de notre pays. Uvira, la rébellion de contre Mobutu, de la fidèle de 97. Je crois que cette fille-là a essuyé beaucoup de martyrs et aujourd'hui, peut-être qu'il chercherait réparation d'hommage. Qu'en a-t-on fait? On ne sait pas. L'entrée des rebelles, il faut même pas se poser des questions. Je crois que la problématique est la même. Pourquoi toujours ce coin-là constitue le ventre mou du pays?
Ouais.
C'est parce qu'on ne met pas les bouchées doubles, comme on dit. On ne tire aucune leçon du passé. pas du tout. Et puis on se dit, voilà, on est surpris, tels groupes sont entrés. Pourquoi ils sont entrés? Comment ils sont entrés? Ambroise a parlé maintenant tout à l'heure des policiers. Je me dis, est-ce que la défense de l'intégrité territoriale relève de la compétence des policiers? Non, il faudrait absolument de l'armée. Je crois que la police n'a pas pour mission primaire la défense de l'intégrité.
En tout cas, c'est le gouverneur qui a parlé des policiers.
Tout à fait. C'est pourquoi je l'ai retrouvé. Est-ce que le policier a dans sa mission la défense de l'intégrité territoriale? Non.
C'est la police est là pour protéger la population.
Tout à fait. Mais qui est-ce qui doit se retrouver à la frontière? Ce n'est pas la police, Guéli. Ce n'est pas la police. Voilà pourquoi nous revenons à la thèse d'une armée dissuasive et efficace. Tant qu'on n'aura pas cet élément-là, rassurez-vous, à un moment, la police se sentira limitée. Ça n'a rien à faire.
On a parlé de l'intégrité du territoire justement, mais moi je voudrais aussi relever ici que on a justement délocalisé les problèmes qu'on avait au Nord Kivu en traquant les FDLR par les Rwandais avec les FRDC. On a délocalisé les problèmes qu'il y avait au Nord Kivu, on l'a amené au Nord Kivu. Et ça, c'est pour donner peut-être raison à ceux qui ont critiqué ces genres d'opérations hier, qu'aujourd'hui, ils ont raison de dire qu'on n'a pas fait effectivement le travail qu'il fallait faire. Donc, ça ne sert à rien de prendre des mesures pour des opérations conjointes et ainsi de suite, mais il faut aussi se concentrer pour réformer l'armée. C'est très important. C'est très important. Il faut de l'argent parce que l'opération de traite de l'FDR a eu un coût économique. Mais il faut aussi qu'on se concentre à chercher de l'argent pour réformer de l'armée. Et ça va résoudre le problème.
Florel, avec toutes ces poches d'insécurité au Kivu, donc je parle du Nord et du Sud Kivu, quelles sont les chances pour le rétablissement de la paix finalement dans le Grand Kivu?
Oui, je crois, une autre question que je me pose, c'est de savoir pourquoi tous ces points de conflit, c'est parce que le dialogue de la conférence de Goma n'a pas été un dialogue sincère et honnête. Est-ce qu'on avait identifié le problème? Pourquoi ces foyers de conflit récurrents? Si on avait identifié le problème, je crois, on les étouffait. La deuxième question, les auteurs avaient-ils dit exactement ce qu'ils ressentaient au fond du cœur? Lorsqu'on verse dans la complaisance, les résultats ne sont guère efficaces. Et c'est ça le problème. Vous trouvez toujours, au genou, on dit, il n'y a plus un Kunda. Et après, il y a un autre. C'est toujours le coin du pays qui nous donne beaucoup de surnoms dans le conflit. Vous avez des Gédéons, vous avez Téléphone, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais sincères dans le dialogue.
Merci, Laurel. Moi, je vous repose la même question. Quelles sont les chances que vous vous accordez
Pas du tout, à mon avis, pas du tout, parce que...
Vous êtes sur mon critique, hein?
Oui, pas du tout, parce que vous avez dit, par exemple, que l'attaque d'Ouvira avait pour objectif de prendre les contrôles de la cité.
Selon le commandant de la...
Ouais. Prendre les contrôles de la cité pour en faire quoi? Tout ça, c'est pour revendiquer, prendre un poste au sein du portefeuille de l'État, ainsi de suite. Les conférences de Goma, toutes les négociations qu'on a dû organiser, ça sert à quoi aujourd'hui? Donc, moi, je pense qu'il faut passer outre ces conférences et penser à la réforme de l'armée, tout simplement. Ça prend de l'argent, mais pensez-y, et ça va régler les problèmes.
Merci Ambroise Mamba. Je rappelle que vous êtes journaliste présentateur d'une émission politique sur Congo Web Télévision, une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa. Deuxième thème de notre débat de ce soir, Assemblée nationale, adoption mardi 7 avril dernier à la Chambre basse du Parlement du calendrier de l'élection du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Les députés se sont donné près de 2 semaines pour l'installation du nouveau bureau, ce après de fortes discussions sur les modalités d'organisation de ce suffrage. Le groupe technique de travail chargé des opérations électorales en appui au bureau démissionnaire a été constitué hier jeudi. Entre-temps, les tractations en vue de la désignation des candidats se poursuivent à divers niveaux des regroupements politiques. Le point avec Marie-Chantal Lomba.
Au Palais du Peuple, les députés nationaux sont affairés. Certains d'entre eux passent de réunion en réunion. Ils débutent par leur parti politique, leur groupe parlementaire et enfin au niveau des familles politiques en vue de confectionner la liste des candidats. Tandis que d'autres attendent des nominations des dirigeants de leur structure qui se chargent de trouver l'oiseau rare à chaque poste. D'après des députés, malgré ces différents modes de désignation, le parlementaire garde la latitude de se présenter comme candidat indépendant. Pour l'instant, les listes sont encore provisoires. D'une part, le choix paraît difficile au regard du nombre croissant des ambitions politiques exprimées par les députés et d'autre part de la volonté de prendre en compte des considérations géopolitiques. Toutefois, il ressort que la compétition sera rude entre l'ANP et l'opposition à tous les postes. En ce qui concerne le groupe technique de travail, il est composé des représentants des 12 groupes parlementaires, plus celui des indépendants. Sa présidence revient à l'ANP et le rapporteur sera issu de l'opposition. De postes clés chargés de paraffer les bulletins de vote, l'une des méthodes pour assurer la transparence du processus.
Merci Marie-Chantal Lumba. La réalisation me signale que nous avons perdu Herbert Tshibanda. Donc on va poursuivre le débat avec vous deux. Le reste en coulée, est-ce qu'on peut se dire finalement enfin ils ont trouvé un compromis et que cette crise que nous vivons à l'Assemblée nationale n'a plus sa raison d'être?
Bien au contraire. À mon avis, je pense que la crise ne fait que s'accentuer et elle s'enracine davantage. Pourquoi je dis ça? Il suffit de voir, d'observer les attitudes des députés, vous comprendrez que ce n'est vraiment pas pour l'intérêt national qui se battent, mais c'est plutôt pour leurs propres intérêts. Sinon, on ne pouvait pas comprendre qu'il y ait beaucoup de temps et suffisamment de temps perdu inutilement, ne fût-ce que pour la désignation, je le dis, pour la désignation des personnes devant se présenter à l'élection de nouveau bureau. Ça n'a pas de sens. Si nous considérons ce bureau qui va entrer et l'Assemblée n'a plus que quelques 4 sessions seulement. Il s'agit de la session de septembre 2009, de mars 2010 et enfin la session de septembre 2010 parce que la dernière sera la session de mars 2011. Faisons le bilan. Qu'est-ce qu'on a hérité de cette Assemblée? Il n'y a rien. Les gens y vont avec des a priori idéologiques de leur parti politique et non dans le but de faire avancer les choses pour dire voilà, nous devons voter tel projet de loi au regard de telle situation, telle autre situation du pays. Rien. On passe le temps. La première cause, c'est quoi? C'est parce que ces députés ont eu la chance ou le malheur, ça c'est long, d'être élus par une population naïve. Vous trouverez que le quart des députés, c'est des députés à fond, des députés muets qui, le moment venu, se transforment en batteurs de tam-tam pour applaudir ceux qui n'ont pas eux-mêmes suivi parce que tel a soulevé la situation et qu'ils ne sont pas assez politiques. C'est bien malheureux, mais je pense que c'est une première expérience et la population devra s'en servir.
Merci Laurel Cancolet, Ambroise Mamba. Fallait-il mettre beaucoup de temps pour arriver finalement à ce compromis? On peut se dire que ce sont les députés qui tiraient en longueur eux-mêmes et qui voulaient que les choses traînent.
Il ne fallait même pas prendre une journée. Il ne fallait même pas prendre une journée. Moi, j'ai constaté à Mérima qu'il y a eu un problème d'humeur. Et jusqu'à la dernière minute, j'ai tout simplement compris que c'était un problème privé du PPRD, même pas de l'AMP. C'était une affaire privée du PPRD qui a pris l'AMP dans son carcan, effectivement, pour bloquer le fonctionnement de l'institution Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont mis d'accord lors de la conférence des présidents. Et un article, c'était un article à problème, c'était par rapport à deux mots. Il y a ceux qui voulaient qu'on dise le groupe technique de travail chargé des coordonnées des élections. Il y a ceux qui voulaient qu'on dise les groupes qui devraient assister les bureaux dans l'organisation des élections. Et ces jours-là, on a fait adopter cet article. Et lorsqu'on lisait in extenso tous les rapports par le rapporteur, on a vu les groupes parlementaires PPRD passer pour dire « Non, ça c'est une version modifiée ». C'est là que moi je dis ici que si les PPRD passent ce jour-là pour dire que c'est une version modifiée du texte, c'est comme pour dire que c'est une affaire privée du PPRD qui a pris l'AMP, tout l'AMP dans son corps. Donc c'est du temps perdu uniquement alors qu'au pays il y a des problèmes de la vie de la population, que la population voudrait bien voir la représentation nationale traitée. Par exemple, lorsqu'on voit aujourd'hui que le panier de la ménagère rentre vide à la maison, il fallait vraiment que les députés puissent se concentrer par rapport à ça, au lieu de nous prendre inutilement le temps pour choisir, mettre en place une commission, soit un groupe, et finalement pour passer aux élections. Tout ça, c'est du temps perdu inutilement.
Oui, Ambroise, est-ce que vous pensez que la mise en place de ce groupe de travail technique est importante pour organiser les élections?
Non, à mon avis, non. Parce que le bureau vraiment était suffisant pour organiser les élections. Ce groupe de travail, à mon avis, on l'a mis en place seulement pour satisfaire aux ambitions politiques de l'AMP qui a estimé que Vital Kamerhe, à la tête du bureau des missionnaires, pouvait empêcher l'élection de son candidat, par exemple. Moi, aujourd'hui, ce bureau ne peut être là comme celui qui pouvait exister le jour même de l'élection, puisqu'on a toujours appelé les témoins, qu'on appelle les assesseurs, qui viendraient pour dépouiller les bulletins de vote, tout ça. Donc, ça ne sert à rien, ça ne servait à rien de mettre toute une commission, tout un groupe de travail, doté de tous ces pouvoirs-là, à mon avis.
Merci Ambroise Mamba. Laurel Kankolé, vous êtes journaliste indépendant. Vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que Ambroise vient de dire?
Tout à fait, c'est peut-être supplémentaire. Le problème se situe, comme Ambroise l'a dit, c'est une phobie de l'ancien bureau. La peur est justifiée du bureau sortant.
Merci Laurel. Le débat tourne aussi autour des noms des probables futurs membres du bureau. Certains observateurs estiment qu'il faut tenir compte de plusieurs critères, entre autres le critère géopolitique. Est-ce un critère valable pour désigner un membre du bureau, Laurel?
Pas du tout. Et c'est ça le danger dans ce pays. On parle région, on parle tribu, on parle ethnie au lieu de parler pays. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la géopolitique pour durer l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Si l'Assemblée est souveraine, la plénière est souveraine, et que le bureau propose par exemple telle issue qui ne soit pas adoptée par la majorité de l'Assemblée, mais ça ne passe pas. Moi, je ne pense pas qu'il faudrait absolument qu'on ait, si on parle en termes de géopolitique, nous avons combien de provinces? Et on aura finalement un bureau représenté par combien de membres?
Par cette province?
Non, ça c'est un faux débat, Kéline. Ça, c'est un faux débat. Et si nous avons des députés responsables, réellement députés, je crois qu'ils devraient se gêner pour soulever une telle question.
Merci, Laurent.
Vous savez que Vital Kamerhe, qui part aujourd'hui, hier, j'avais de lui une certaine opinion, une certaine idée. Je disais souvent que Vital Kamerhe était trop militant et que politique. Mais aujourd'hui, lorsqu'il a géré l'Assemblée nationale, tout le monde a compris que Vital Kamerhe a si bien géré l'Assemblée nationale. Je suis d'ailleurs très content lorsque je suivais un membre de l'opposition qui jetait des fleurs à Vital Kamerhe pour dire que non, c'est quelqu'un qui a bien géré l'Assemblée nationale. Or, Vital Kamerhe était un candidat de la majorité. Donc, il y avait déjà un couac entre la majorité et l'opposition. Mais quelqu'un qui est sorti de la majorité, il vient gérer l'Assemblée nationale et l'opposition qui est réellement applaudie. Donc, les critères qui vient de donner, moi, à mon avis, n'a pas ses raisons d'être à ce niveau. Il faut quelqu'un qui saura concilier les vues, comme Vital Kamerhe l'a fait. Quelqu'un qui saura donner alors la place réelle du député dans ce pays, et c'est celui-là qui pourra bien gérer la Chambre basse.
On ne parle pas seulement du président du bureau, mais de tous les membres du bureau, Ambroise Mamba. Quels sont, d'après vous, les critères qui doivent être pris en compte pour la désignation des membres du bureau?
Des membres du bureau, vous savez d'abord que la gestion de l'Assemblée nationale, c'est, à mon avis, c'est le président de l'Assemblée qui donne l'impulsion à une bonne gestion de la Chambre. Les autres membres ne font que suivre peut-être la politique avec des idées pour contribuer et tous à la gestion. Mais par rapport à d'autres postes, notamment les postes de premier vice et de deuxième vice, ces gens-là ont le pouvoir que le président peut leur déléguer. Mais le poste de questeur, par exemple, il faut quelqu'un franc. Pas quelqu'un qui, comme aujourd'hui, on est en train de les suivre à travers la presse, un questeur qui aurait détourné de l'argent. Et l'argent qui n'est ni à l'Assemblée nationale, l'argent qui n'est ni au ministère des Finances, mais qui est consigné quelque part. On ne sait même pas le démontrer aujourd'hui. Et quelqu'un comme ça, à mon avis, moi je ne pense pas qu'il soit candidat pour les prochains bureaux, par exemple. Donc il y a des critères comme ça qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte pour qu'on élise un candidat.
Je peux ajouter, s'il m'a été demandé quels sont les critères sur lesquels on peut tabler pour l'élection du président de l'Assemblée, il faudrait qu'il y ait un député qui mette tout le monde d'accord sur sa façon de faire, sur sa personnalité, c'est-à-dire un conciliateur. Il faudrait qu'on ait quelqu'un qui a un sens de diplomatie. Ça, c'est très important. Un sens diplomate qui sait déjouer les pièges, qui sait déjouer les pièges des partis lors des débats. Sinon, vous risquerez de transformer l'hémicycle en lieu de palabres coutumiers et tout, où les gens ne se mettront jamais d'accord.
Mais est-ce que vous avez quelques noms des candidats probables au poste du bureau de l'Assemblée nationale, du nouveau bureau?
que je peux proposer ou qui se disent dans la
presse? Non, qui se disent, les rumeurs qui circulent sur les probables candidats au poste du nouveau bureau.
Okay, il ne faudrait pas que nous tablions sur les rumeurs, je crois que c'est, on risque de faire la propagande politique des gens qui parlent dans la presse.
Non, mais quand un nom revient plusieurs fois, il faut se poser des questions quand même.
Oui, qui font ça, nous connaissons comment nos médias le font. Il y en a qui font un certain matraquage médiatique, ne fût-ce que pour faire la publicité politique de certains candidats qui, à mon sens, ne méritent pas la présidence de l'Assemblée nationale. Je me réserve de citer leurs noms.
Oui, merci Laurent, Ambroise.
Effectivement, moi je ne me réserve pas de citer les noms, moi je peux citer quand même.
Oui, allez-y.
Par exemple, par rapport au poste de président, c'est le poste le plus important qui intéresse d'abord la population. C'est le poste qui revient tout partout au PPRD.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de noms. Yves Sebouchab, il y a le professeur Inès Birungou, il y a plusieurs noms que j'ai encore oubliés ici. Mais tout ça pourquoi? Comment est-ce qu'un parti, pour un parti politique, un seul parti, qui a accepté de faire partir son délégué au bureau de l'Assemblée nationale, ne s'est pas encore concerté pour trouver un candidat valable? Tout ça, c'est parce qu'il y a un problème d'ambition, et ces gens-là sont tellement divisés que pour se mettre d'accord pour...
Là, vous parlez de qui? Les députés du PPRD ou de l'AMP?
Les gens du PPRD, pas de l'AMP d'abord. D'abord, je parle d'un seul parti. Qui est peut-être pour lesquels on a beaucoup parlé dans la presse. Alors, si pour le PPRD seulement, il y a beaucoup de noms, c'est pourquoi en faire? Or, il fallait déjà qu'on puisse avoir déjà un nom seulement proposé. Parce que Vital Kamerhe, c'était un délégué du PPRD à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Il fallait qu'on puisse avoir un seul nom. Pourquoi deux, trois, quatre même? Pour en faire quoi? Et ces gens-là sont en train de se diviser pour rien. C'est pourquoi j'ai dit que la facilité avec laquelle Vital Kamerhe a été élu ne sera pas démise pour cette élection. Parce que ces gens-là, pour se comprendre, c'est tellement difficile qu'il est de se diviser pour donner raison à l'opposition qui proposerait un candidat, par exemple.
Oui, Ambroise, mais une minute, Laurel. Est-ce que le fait de proposer plusieurs noms à la fois, c'est pas un signe de démocratie au sein du PPRD?
Un signe de démocratie. Et en fallait-il, en quoi faudra-t-il qu'il puisse avoir de la démocratie au sein du PPRD? En quoi faudra-t-il qu'il puisse avoir de la démocratie au sein du PPRD? S'il y avait démocratie au sein du PPRD, Vital Kamerhe ne serait pas parti. Mais il ne serait pas parti. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie qu'il est parti. C'est parce qu'il a commis, il a commis un délit d'opinion. Il n'a pas eu de problème par rapport à la gestion de l'Assemblée nationale.
Vous êtes dur avec le PPRD, hein, on passe.
Non, je n'en veux pas au PPRD, en tout cas. Je suis en train d'analyser ici objectivement ce qui se passe au sein du PPRD.
Laurent, vous avez quelque chose à ajouter?
Tout à fait. Tu constateras avec moi que ce qui se passe maintenant dans les états-majors des partis politiques pour les présentations de candidats ressemble à une course épique. Il y a des partis qui estiment qu'il faut lui aligner le plus de chevaux possible pour maximiser les chances. Le moment venu, qu'est-ce qui va se passer? C'est un jeu politique. Tel dira, ok, je me dévise au profit de tel, et puis finalement, on donne la consigne de vote à tous les députés issus de la famille politique. Voici notre candidat unique, c'est tel ou tel autre. Moi, je pense que pour l'instant, hein, au stade actuel, c'est pas tellement condamnable. C'est juste pour brouiller l'opinion, brouiller les cartes de la partie adverse. C'est tout.
L'opposition aussi est partante hein, dans cette course. Dans
mais naturellement, ce n'est pas dans ce complot que l'opposition devrait séduire au PPRD, soit à l'AMP. Non. L'opposition ne peut pas partir en faible et négocier en basse position pour dire ok, c'est votre affaire, c'est Dieu comme vous l'entendez. Non, c'est une assemblée nationale, même si la majorité de ce qu'on a, mais l'opinion ne doit pas porter des muselières.
Merci Laurel.
Je vous réponds une question rapidement.
Vous
dites que l'opposition est partante,
ouais.
Mais vous savez qu'au début de la législature, l'opposition n'avait pas de candidat. Et aujourd'hui, pourquoi l'opposition a des candidats? C'est parce qu'il a remarqué qu'il y a des problèmes, il y a une forte tension au sein de l'AMP. Et que ça peut lui profiter. Voilà pourquoi l'opposition a un candidat, justement.
Merci, Ambroise Mamba. C'est avec vous que nous bouclons ce deuxième terme. Notre dernier sujet porte sur la décision du gouvernement de la retenue à la source de 30% sur les salaires de tous les personnels politiques. Ceci, selon le ministre de Budget, c'est en vue d'augmenter les recettes de l'État. On écoute le ministre de Budget, Michel Lukola, s'exprimant à ce sujet au téléphone de Georges Kamoudjova.
Les institutions n'ont pas payé l'impôt se rapportant aux rémunérations du mois de janvier, n'ont pas payé l'impôt se rapportant aux rémunérations du mois de février, mais pour le mois de mars, le ministère du Budget a retenu à la source. Le montant est de 952 440 000 francs congolais que la Direction générale des impôts a encaissé.
Ça ne fait qu'un million de dollars.
Oui, parce qu'en fait, il faut dire que c'est une opération qui doit être étendue jusqu'au niveau des autorités provinciales. Nous avons commencé par les institutions centrales, c'est-à-dire en fait par Kinshasa, et ça devrait s'étendre jusqu'au niveau de province.
Il faut signaler que cette décision n'enchante pas tous les députés. Certains la qualifient d'arbitraire et pensent que c'est une manière unilatérale que le gouvernement a pris cette mesure sans respecter la procédure réglementaire. Laurel Cancolé, vous êtes journaliste indépendant. À votre avis, pourquoi les députés sont-ils réfractaires à cette décision du gouvernement?
Oui, mais c'est comme, j'ai une exception que j'aime bien. C'est qu'ils se sentent arracher le bistec. Et quelqu'un qui gagne gros n'accepterait plus qu'on rabatte ce qu'il a toujours touché hier. Moi, je me dis cette décision, on l'a peut-être appliquée un peu tard. Les écarts salariaux dans nos pays sont tellement grands que les mécontents ont mis en place des stratagèmes qui tendent de la corruption jusqu'à tous antivaleurs, jusque pour récupérer le manque à gagner que l'État ne leur donne pas. Et moi, je me dis peut-être que le gouvernement était assez clément, 30%, c'est ça, ça passe quand même. Si c'était moi, je pense qu'on pourrait aller même à 45%, pourquoi pas. Que gagne un professeur d'université par rapport à un député national? Le député national congolais peut payer pendant 4, 5, 6 mois avec ses seuls émoluments mensuels à un professeur d'université qui soit docteur. Que gagne un fonctionnaire de l'État par rapport à un ministre? Alors, nous pouvons partir des exemples en exemple. Vous trouverez que les écarts sociaux, les écarts salariaux, sont plutôt à la base des remous sociaux. Je crois que ça vaut la peine. Ce n'est pas une innovation, c'est des pratiques régulières dans la gestion orthodoxe de l'État.
Mais pourquoi seulement en ce moment que le gouvernement décide de retenir les 30% sur les salaires des politiciens?
Voilà, c'est ça qui m'étonne. Et pourtant, dans toute société organisée, il y a toujours ça. On connaît ce que gagne le président, excusez-moi, le président français, sa liste civile. On instrumentalise, vous trouverez quand on a augmenté ne plus que 2%, le salaire des fonctionnaires de l'État, c'est tellement médiatisé, instrumentalisé pour dire, ah voilà, le gouvernement, l'État fait ceci. Non, je crois qu'il faudrait qu'on soit, il faudrait qu'on réduise les tensions salariales, voilà. Il faudrait qu'on rabaisse les tensions salariales. Je crois que ça vaut la peine.
Ambroise Mamba, vous êtes journaliste, présentateur d'une émission politique sur Congo Web Télévision, une chaîne de télévision privée, émettant à Kinshasa. Est-ce que c'est une mesure efficace que vient de prendre le gouvernement pour augmenter les recettes de l'État, selon le ministre du Budget?
La mesure n'est pas efficace. Il fallait qu'on prenne la mesure bien avant, au début de la législature. Pourquoi? Nous sommes à mi-parcours. Les ministres qui se réveillent le matin, ils prennent une décision et puis ils la motivent. Ils vous disent non, c'est pour résoudre le problème lié au taux de change, justement. Mais est-ce que pour résoudre les problèmes liés au taux de change, il faut innover? C'est pas moi, Laurel a dit que c'est pas une innovation, effectivement. Mais si ce n'est pas une innovation, pourquoi seulement à mi-chemin? Et on doit dire que on doit prélever à la source les 30% du revenu professionnel, tout ça. Là où, également, je ne suis pas d'accord avec les députés, c'est lorsque eux seuls s'en prennent, ils s'acharnent beaucoup contre les ministres, comme si la ministre...
Ils disent qu'ils n'ont pas été informés.
Informer, ça veut dire qu'on organise un débat, une plénière, qu'on les appelle.
Une communication, par exemple, pour leur dire.
Est-ce que la mesure est salutaire pour les députés ou c'est pour le pays? C'est comme s'il fallait qu'on en discute avant. Là, ils diraient directement, non, nous ne sommes pas d'accord, monsieur le ministre. Or, c'est un impôt pour que ça participe effectivement aux réalisations d'intérêts communautaires. Moi, je ne vois pas pourquoi ils doivent se charner contre les ministres, parce qu'il y a même les ministres pour lesquels on doit retenir à la source. Il y a les ADG, ce sont des postes politiques, justement, les mandataires publics, donc pour lesquels on doit retenir aussi à la source. Il y a les députés provinciaux. Je n'ai suivi aucun député provincial, je n'ai suivi aucun ministre passer à la télévision pour ce sujet contre la mesure prise par le ministre du budget non plus. Mais je voudrais que les députés, c'est peut-être tout simplement, ils brandissent les beaucoup de charges qu'ils ont par rapport au DIP, mais la DIP c'est privé. Au moins par rapport au prélèvement qu'on fait par rapport à l'INSS, là au moins on sait que c'est pour renflouer la caisse de l'État. Mais la DIP c'est privé. Le ministre, ce qu'il a fait, il a bien fait. Mais il a fait à mi-chemin, il aurait dû prendre la mesure depuis très longtemps.
Oui, Laurel.
Peut-être, je me dis, il n'est jamais tard pour mieux faire. Efficace, oui. On pourrait reprocher au ministre le retard. Pourquoi si tard au lieu d'avant? C'est pourquoi je dis, il n'est jamais tard. Non, il vaut mieux tard que jamais. Par rapport au comportement des députés, s'il est établi réellement qu'ils n'ont jamais été informés en amont, je crois que le mécontentement peut se justifier, d'autant plus que chacun budgétise quand même, il faut un certain bilan de ce que lui gagne. Voilà, avec le salaire de ces mois, je ferai ceci. Mais si le jour venu, on constate qu'il y a manque à gagner, soit il y a des retenues à la source, ça peut créer des malaises parce que ça bouscule tout un budget. Je crois ça. Je dis, s'ils sont honnêtes, qu'effectivement ils n'ont jamais été informés, je crois que ça valait la peine de leur dire, voilà, conformément à telle situation, nous serons obligés de procéder à telle retenue à la source au regard de ceci. Je crois que ça vaut la peine.
Moi, je voudrais poser une petite question au ministre. Si cela, l'impôt sur les revenus professionnels était prévu au début de la législature, comment il devait s'y prendre si le problème de toute chance est posé? C'est lorsque je dis qu'il y a un problème, justement, par rapport à la loi budgétaire. Il y a une rubrique, l'impasse budgétaire, justement. Mais cette rubrique, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je voudrais que le ministre nous réponde à cette question.
Et puis, okay, je ne t'interromps pas. Je crois que ça vient un peu mal au regard de la crise qu'on observe également au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, le conflit qu'il y a maintenant entre l'exécutif et le législatif, la mesure du ministre risque d'être mal perçue.
Merci, Laurel. La décision a déjà été prise par le gouvernement. C'est vrai qu'on va retenir à la source 30% sur les salaires des politiciens. Mais quelles précautions le gouvernement doit-il prendre pour que cet argent contribue réellement au budget de l'État, Laurel Kankolé?
Oui, c'est ça justement. Moi, je n'ai jamais vécu le fait qu'ils soutiennent que le pays n'a pas d'argent. Non. Le pays a suffisamment d'argent, mais c'est pour plutôt un problème de canalisation des recettes dues au trésor. Nous pouvons prendre le cas, si vous permettez que je le cite, bon, ça n'engage pas quelques mois. Le quoi qu'il y a eu au début de l'opération, vente-vignette et recouvrement forcé, tout, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on en a dit? Et je crois que les députés, la plupart des députés sont revenus au plateau pour s'interroger, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On ne voit pas clair. Donc, quelque part, ils ne voulaient pas en parler, même si l'on dit à demi-mot, il y a eu des tournements, ça engage quelques auteurs. Moi, je crois le problème, retenir l'argent est une chose, et verser l'argent retenu réellement à la caisse de l'État en est une autre. Utiliser cet argent pour des fins publics, c'est également ce qui est important.
Ambroise Mamba, un mot par rapport aux précautions. Vous avez des propositions à faire au gouvernement pour éviter que...
J'éprouve les mêmes avis, ou bien la même opinion que celle de Laurel, lorsqu'il dit que le problème de la canalisation de ces fonds se pose justement, mais également les problèmes de mesures sécuritaires qu'il faut mettre en place pour que cet argent ne puisse pas être utilisé à d'autres fins. C'est aussi très important à ce niveau. Puisque les députés aujourd'hui, ils ont utilisé ça comme argument. Ils ont dit par exemple qu'ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas des garanties que cette argent sera utilisé pour des réalisations d'intérêts communautaires, étant donné qu'aujourd'hui, ils ne savent plus se faire soigner. Au clinique d'Ingalima par exemple, semblait-il, l'employeur n'a rien versé il y a 4 mois.
Merci Ambroise Lumumba, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Ce soir, nous avons reçu comme invité Herbert Tshibanda Kadede, malheureusement que nous avons perdu en cours d'émission, Laurel Kankolé, journaliste indépendant, et Ambroise Mamba, journaliste présentateur d'une émission politique sur Congo Web Télévision, une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa. Merci à Willem Lungambay qui a géré la mise en onde de cette émission et à Pierrot et la Mégie qui l'a réalisée pour vous. Nous n'oublions pas toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Jean-Claude Tumbakamanga, Guy Maté, Alain Hirung et Titine Poutou. En leur nom, Kéline Couté vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end et bonne fête de Pâques à tous les chrétiens qui nous suivent.
Okapi.